Saint Paul apprenant en effet que la jeune église de Thessalonique, troublée par des enseignements incompris ou pervertis, regardait comme imminent le second avènement de Jésus-Christ, et que ses membres en concluaient qu'il n'était plus nécessaire de travailler pour le peu de temps qui les séparait de ce grand jour, leur avait adressé une seconde épître dont nous extrayons ce passage qui va nous fournir la première partie. Nous vous conjurons, mes frères, par l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union à lui, de ne pas vous laisser ébranler ni alarmer sur de prétendues révélations ou sur quelques discours et quelques lettres qu'on supposerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était près d'arriver. Ça, c'est vraiment un avertissement pour qu'on soit patient. Peut-être que les mystiques qui nous parlent en ce moment ont raison, et que c'est peut-être dans 6 mois qu'il va y avoir des événements, les premiers événements de l'Apocalypse. Mais oui, mais ça peut être dans 2 ans. Parce que là, il n'y a aucun problème pour Dieu, hein. 2 ans, 6 ans, si vous voulez, c'est comme un médecin chez le dentiste, vous voyez, vous êtes là. Quand il vous dit qu'il vous prend, ça peut être une demi-heure. Hein. Voilà. Parce que s'il est consciencieux, il va aller jusqu'au bout des racines de la dent, il va pas laisser des morceaux, il dit ben, au revoir, vous vous reprenez la prochaine fois. Que personne ne vous trompe en aucune manière, car ce jour ne viendra pas. Que l'apostasie ne soit consommée et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de perdition, qui combattra et s'élèvera contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, s'y donnant lui-même comme Dieu. Lettre aux Thessaloniciens, 2e, chapitre 2. C'est là qu'il y a un enseignement clair, révélé et inspiré de l'Esprit Saint, net et très net. D'abord l'apostasie, il faudrait que nos églises soient vides, que nos séminaires soient vides, mais ce n'est pas encore le cas. Et que l'homme apparaisse l'homme de péché, le fils de perdition. Donc la première condition n'est pas encore remplie, nous sommes en plein boom spirituel, tout ça, enfin voilà. On a baptisé 100 personnes à Saint-Eugène à la veillée pascale, tous les bobos du quartier sont là, dévots, tous les dimanches matins, tout ça, c'est merveilleux, enfin c'est le printemps de l'Église. Voilà. Et donc, mais par contre, il faut qu'apparaisse l'homme de péché. Ne vous souvient-il pas que je vous ai dit ces choses quand j'étais encore parmi vous? Ça veut dire que Saint Paul, quand il a parlé de l'arrivée de l'Antéchrist dans la première lettre, il leur dit, mais attendez, je vous ai mis par écrit ce que je vous ai enseigné oralement. Je vous ai envoyé une lettre où je vous avais fait un résumé général. Mais je vous rappelle les détails que je vous avais donnés quand je vous avais parlé de ces moments. Parce qu'il faut que Saint Paul ait des révélations quand même toutes particulières pour affirmer une chose pareille, hein, qu'on retrouve dans Daniel et qu'on retrouve chez Saint Jean dans l'Apocalypse. Donc Saint Paul n'était pas la moitié d'un apôtre, hein, pour avoir des révélations aussi précises. Hein. Parce qu'il doit s'asseoir dans le temple de Dieu, ça c'est une précision toute particulière pour l'Antéchrist. C'est pas rien, c'est un homme religieux. Ça sera une religion mondiale, ça sera pas un athéisme, hein. Ça sera une religion mondiale, il se présentera comme divin, comme inspiré, comme surnaturel. Il fera des prodiges, c'est-à-dire des miracles, des choses étonnantes ne venant pas de Dieu. Vous savez bien, alors non, alors ça c'est l'horreur, c'est le catéchone, paraît-il, je crois en grec. Et en ce moment, vous avez le cardinal Burke, le cardinal Sarah, Monseigneur Schneider, ils sont là. Qui, c'est quoi le catéchone? L'obstacle. Et là, Saint Paul nous fait une plaisanterie, comme il en a le secret. Ne vous souvient-il pas que je vous ai dit ces choses quand j'étais encore parmi vous? Vous savez bien ce qui le retient dès à présent pour qu'il paraisse en son temps. Ben, pas nous. Les Thessaloniciens, oui, mais nous, non. Eh ben, il saute. C'est une lettre concrète. Puisque ses lecteurs le savent, il rentre pas dans la précision. Mais c'est cruel pour nous. Parce que le bon Dieu derrière Saint Paul, c'est lui qui rigole. C'est lui qui a un humour très très caustique. Puisqu'il ne révélera pas à nouveau ce que Saint Paul a dit à ces braves Thessaloniciens. Et on sait toujours pas. Vous savez bien ce qui le retient dès à présent. Alors là, on est là, ben c'est la messe, c'est le pape fidèle au magistère, c'est la Vierge Marie, on se perd en conjecture. Le mystère d'iniquité est en voie de se former. C'est là ce qui le retient et le retiendra jusqu'à ce qu'il soit accompli. Et alors apparaîtra cet impie que le Seigneur Jésus tuera d'un souffle de sa bouche et qu'il exterminera par l'éclat de son événement. Ben voilà. Oui, j'arrête là. Hein. Le titre c'était « La victoire de la grâce sur l'Antéchrist ». Notre Seigneur va le vaincre. Donc tous ceux qui vont résister, si vous voulez, dans ces instants, ces années de l'Apocalypse, doivent résister puisque, à un moment donné, la persécution s'arrêtera et définitivement. Et cet impie qui doit venir par l'opération de Satan, et écoutez bien, c'est très important, c'est Saint Paul, c'est pas un auteur qui raconte ça comme ci, comme ça, avec toutes sortes de prodiges, de signes menteurs. Voilà. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui eût été leur salut. Donc il fera des miracles. Il va guérir apparemment des malades. Il va apparemment ressusciter des morts. Et il pourra pas, hein. Donc ça sera une apparence, vous voyez, ça sera Musée Grévin, Hollywood, hein. Le bonhomme, il va reprendre vie. Mais en fait, si vous voulez, vous aurez un démon qui entrera dans le corps de cette personne et qui le fera agir comme un vivant. On le saluera, on l'acclamera, le bonhomme partira et puis il ira se décomposer ailleurs. Oui. C'est pourquoi Dieu leur enverra des illusions si séduisantes qu'ils croiront à l'erreur. Alors là, c'est très particulier, hein. De sorte que, ayant refusé d'ouvrir les yeux à la vérité et s'étant livrés au mal, ils soient condamnés. C'est pas très... Théologiquement, c'est dur, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au temps de l'Antéchrist, les gens seront tellement corrompus qu'en conscience, ils sauront très bien que c'est mauvais. Et que Dieu les abandonnera à leur malice parce qu'ils auront eu suffisamment de grâce pour se convertir. C'est cela, aveugler Pharaon. C'est pas Dieu qui va dire « pêche », vous voyez. C'est Dieu qui les laisse dans leur péché parce qu'ils ont épuisé le temps de la grâce. Ça nous semble difficile, eh bien, c'est annoncé quand même, hein. Okay. Il est dès lors parfaitement établi que le second avènement de notre Seigneur sera immédiatement précédé de l'apparition de celui que l'Écriture et la tradition sont unanimes à désigner sous le nom d'Antéchrist, et dont nous allons faire l'historique, donner le signalement, pour que ceux d'entre nous qui vivront en ces jours, dont tout fait entrevoir l'effroyable aurore, ne puisse s'y méprendre. Luc, chapitre 21, 8 à 31, en résumé, qu'il veille à ne pas se laisser séduire, selon la recommandation du Sauveur, et qu'il lève la tête, sachant que le royaume de Dieu est proche. Qui a écrit cela? C'est Maurice Boustros, si je ne me trompe pas. Vous voyez, on l'appelle Maurice B. Et en fait, vous voyez ici, l'Antéchrist de Maurice B. Vous voyez, édition de l'imprimerie d'Estenay, D-E-S-T-E-N-A-Y, à Saint-Amand, dans le Cher,
c'était un prêtre,
en 1892. Non, c'était un mystico-dingo de l'époque. Et donc, qui a fait un beau travail qui vaut le travail d'un prêtre. Beaugros, il s'appelait. Maurice Beaugros, B-O-G-R-O-S. Vous pouvez, de 1892. Sa personnalité, la préparation de sa venue, son règne, sa défaite et les conséquences de sa défaite. Alors, nous allons maintenant passer, avant de continuer avec Monsieur Beaugros, à l'abbé Lehmann. Vous allez prendre votre petit fascicule. Chapitre 1er, trois portraits de l'Antéchrist tracés prophétiquement dans la Bible. Portrait dans le livre de Daniel, la petite corne grandissante. Une corne, c'est vraiment une corne. Mais qui dit corne en latin ou en hébreu dit force. Le taureau a deux cornes et il tue avec ses cornes. Donc corne, ça veut dire la force. Donc une force, une personne forte. Dans l'Apocalypse, il est lié à la bête. Et dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, c'est l'homme de péché, c'est l'impie. Le chapitre 2 parle de sa personne, de son règne, de la persécution et de la fin de l'Antéchrist. Les choses certaines, c'est que l'Antéchrist sera une épreuve pour les bons, un châtiment pour les impies et les apostats. Deuxième certitude, c'est que l'Antéchrist sera un homme. Troisième certitude, c'est que l'Antéchrist ne sera pas Satan incarné. Et ça, c'est important, c'est une erreur fréquente. Ça y est. Il sera probablement possédé, mais c'est pas Satan uni à une nature humaine. Il aurait bien aimé pour singer le Christ totalement. Non. Il aura face à lui une personne humaine. Parce que la personne de Jésus, elle est divine. Il a un « je » qui est, comment dire, dans sa personne divine. Ouais. Ni un démon sous une apparence humaine, mais un membre de la famille humaine, un homme, et rien qu'un homme. Ah, intéressant. Hein? Attendez. L'Antéchrist sera séducteur par certaines qualités de sa personne. Les débuts de l'Antéchrist seront humbles et peu remarqués. L'Antéchrist grandira et fera des conquêtes. L'empire de l'Antéchrist deviendra universel. L'Antéchrist fera une guerre acharnée à Dieu et à l'Église catholique. L'Antéchrist se fera lui-même passer pour Dieu. Il voudra être adoré, lui seul. C'est au moyen de prodiges diaboliques que l'Antéchrist prétendra démontrer qu'il est Dieu. Beaucoup de miracles. Mais ça va être amusant quand même. Enfin, vous serez prévenus. Parce que ça fait tellement de décennies qu'il n'y a plus de grands miracles. Enfin, le dernier grand miracle public, c'est Fatima.
Oui.
Je suis désolé. Ensuite, vous avez des miracles privés, mais que vous pouviez constater pendant des années. Par exemple, c'est Marthe Robin ou c'est le Padre Pio. Que vous le vouliez ou non, c'était des miracles permanents exposés. Vous alliez à Saint-Giovanni-Rotondo, vous voyez le bonhomme, il était là avec ses plaies. Alors vous dites, il se les fait récemment. Hein? Non. Donc, plein de témoins vous disent, non. C'est des plaies qui ne s'infectent pas et qui ne se ferment pas. Voilà. Donc vous voyez quelque chose. Ça, c'était visible. Voyez? Mais c'était pas spectaculaire. Voyez? Si pour l'illumination des consciences dont parle l'apparition de l'Escorial, dont l'archevêque de Madrid a permis la construction de la chapelle sur le lieu de l'apparition en 2012, où l'Amparo, qui est une sainte femme de 1980 à 2002, a eu des visions de la Vierge, et ces visions disent qu'il y aura une illumination des consciences, un avertissement, un châtiment, et badaboum. Et donc, l'illumination des consciences consisterait en une sorte de cataclysme au-dessus de la Terre, qui provoquerait un choc que certains considéreront comme psychosomatique seulement. Et l'onde de choc réveillera tout le monde, même de l'autre côté de la percussion de deux météorites, par exemple. Et tout le monde, pendant une dizaine de minutes, connaîtra l'état de son âme, s'il est en état de grâce ou pas. Ceux qui sont en état de grâce verront tout le parcours, tout le chemin à parcourir encore. Tout ce qu'ils n'ont pas pardonné, tout ce qu'ils n'ont pas, leur manque d'amour, tout ça, enfin, tout ce que les saints pouvaient entrevoir et qui faisait qu'ils considéraient qu'ils étaient des immenses pécheurs, sauf que là, ils le verront de manière extrêmement objective. Une grâce universelle. Parce que, avec 7 milliards d'hommes, ou 8 ou 10, hein, si c'est dans 50 ans, il n'y a plus moyen de se convertir facilement. Il faut une grâce particulière. Bon. Ceux qui ne sont pas en état de grâce ont deux solutions. Devant leur péché, se convertir humblement. Et donc, ou ne pas se convertir. Et sur ces trois catégories, il y en a qui en mourront de cette illumination des consciences, tellement ça sera vertigineux. Ouais. Et alors, dans les semaines qui suivront cette illumination des consciences, les uns diront que c'est un phénomène tout à fait naturel, mais ça quand même, ça aidera beaucoup. Et puis ensuite, il y aura le grand miracle, ou l'advertissement, qui serait un miracle qui donnerait un côté chrétien à cette illumination des consciences, et ensuite le châtiment. Mais un châtiment qui est le début des plaies de l'Apocalypse, et qui laissera la vie sur terre encore après ce châtiment. Mais qu'on peut distinguer cette fois-ci avec une apparition totalement reconnue, qui est celle d'Akita, le 13 octobre 73, où la Vierge Marie dit que si les péchés continuent, il y aura un châtiment tel qu'il n'y aura pas eu depuis le déluge, et par le feu, une grande partie de l'humanité va périr, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles, de manière que les vivants envieront les morts. Ça vient après l'illumination des consciences, parce que Dieu voudrait le salut des âmes. Et ça, c'est, il n'y a qu'une seule apparition qui a un début de reconnaissance, l'Escorial, construction de la chapelle sur le lieu de l'apparition, par l'autorisation de l'évêque et célébration de la messe. Les autres, Garabandal, et des interprétations de la Salette ou de Fatima, ne sont pas évidentes et directes. Oui. Conchita de Garabandal, elle, affirme l'illumination des consciences claire et nette. Et vous avez une mystique irlandaise, le livre de la vérité, depuis 2010, je crois, qui a des messages, beaucoup de messages, et qui dit illumination des consciences, faux prophètes, antéchrist, bon, maintenant. Et en 1905, l'abbé Lehmann, lui, nous dit « C'est au moyen de prodiges diaboliques que l'antéchrist prétendra démontrer qu'il est Dieu. La domination et la persécution de l'antéchrist seront passagères. L'homme de péché sera détruit. » Ah oui. Donc, fin de l'Apocalypse. Chose probable. Ah, désolé. Les Juifs acclameront l'antéchrist comme Messie et seront ses auxiliaires pour établir son règne. Pas n'importe quel juif, hein. Parce que l'antéchrist en question, ça sera divorce, contraception, avortement, euthanasie, liberté sexuelle absolue, et les juifs pieux, vous savez, ils vont avoir du mal. Comme m'a dit le directeur de la fabrique le président de la synagogue de la Victoire, il y a 3 semaines, ma nièce s'est mariée sous la houppa avec une femme dans une synagogue libérale aux États-Unis. Donc vous avez le rite synagogal et vous avez mademoiselle et mademoiselle qui deviennent madame et madame. Youpi! Vous voyez? Ah ben chez les, dans les synagogues libérales. Hein. Libérales! Il n'y a plus de morale, il n'y a plus de vie, quoi. Et donc, ces juifs-là ne seront pas les juifs ordinaires. Hein. Ce sont des personnes qui, si vous voulez, ont une rancune, une volonté de domination qui fait toute la, comment dire, toute la fantasmagorie des nazis et des protocoles des sages de Sion. Mais qui existent aux côtés de non-juifs totalement libertaires qui ont toute la même intention d'un pouvoir universel et d'une religion universelle, complètement libertaire. La durée de la persécution de l'Antéchrist sera de 3 ans et demi. Waouh! Chose indécise, nous dit l'abbé Lehmann, la nationalité de l'Antéchrist. Le nom de l'Antéchrist. Le siège de l'empire de l'Antéchrist. Ça, pour Jacques Attali, c'est Jérusalem. Ah, il le dit publiquement, dans les interviews. Donc, pour le coup, lui, il a fait un petit roman en 93 ou 95, il dit « Il viendra ». Un petit roman, vous êtes là, vous avez un essayiste, banquier, économiste, conseiller des présidents de la République française, qui fait un petit roman en disant que le Messie, attendu par le peuple juif, va venir. La page de garde du roman, c'est l'Annonciation. Vous voyez ? De Fra Angelico, je crois d'ailleurs. Ou...
C'est un juif pratiquant, Attali ?
Ah, non. Mais il est... Non, parce que lui, il est pour toutes les perversions sexuelles, il est pour l'euthanasie. Alors il serait dans une synagogue ultra-libérale. Mais en soi, hein, il est très attaché. Il a fait une conférence qui est sur YouTube, qui est peu connue, où qui passe sur la tête, il dit il faut faire attention car le peuple juif a une mission universelle et il ne faut pas se dissoudre trop et se marier trop avec des non-juifs. Et il dit il faut des juifs purs, core Jews, C-O-R-E. J-E-W-S. Waouh! Non, ça rigole pas. Le siège de l'empire de l'Antéchrist, le temple où l'Antéchrist se fera adorer, ben le temple de Jérusalem. C'est sûr que la guerre avec l'Iran permettra peut-être de nettoyer l'esplanade des mosquées. Vous voyez? La mosquée du Dôme, la mosquée d'Al-Aqsa. Vous voyez, on a présenté à Trump les plans du temple. Quand il a transféré l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, on lui montrait les plans du temple. Il était là, devant, il voyait. Alors voilà, ce petit édicule-là, ridicule, tchoup, toc, pof, et lui, waouh, c'est bien, waouh. Vous voyez. Parce que lui, il est pragmatique, hein. Si les banquiers sionistes lui font des prêts, il est... Si Jérusalem doit être à feu et à sang, il s'en moque comme d'une guigne. Hein. C'est pas un grand géopolitologue, hein, Donald Trump. Chose fantaisiste. Ah. Que l'Antéchrist naîtra à Babylone, qu'il sera le fruit d'un commerce illicite, que son éducation s'accomplira à Bethsaïde et à Chorazoïm. Ça, ce sont des vieux textes apocryphes. Hein. Que ses éducateurs seront des magiciens. Qu'il saura par cœur toute l'écriture et connaîtra tous les arts, que bien que son ange gardien ne lui soit pas ôté, que les débuts de son règne et de sa puissance se feront à Babylone, que 10 rois se coaliseront contre lui, qu'il parviendra à cette domination non seulement par les arts mais par la ruse mais aussi par l'appât des biens temporels, qu'il opérera avec l'aide du démon tous les miracles de Jésus-Christ. Ça par contre, vous voyez, l'abbé Lehmann se contredit puisqu'il dit qu'il, dans les certitudes, qu'il fera des miracles, enfin bon. Qui en jeté bas le masque de l'hypocrisie, il aura des mœurs épouvantables. Ajoutons que ces palais eux-mêmes qu'enfin il sera frappé et exterminé à Apnado, sur la montagne des Oliviers. Très bien. Alors, je reviens à Maurice B. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Le nom d'Antéchrist, dans son acception générale, exprime tout homme hostile à Jésus-Christ. Et dans son acceptation particulière, ce formidable personnage qui devra apparaître à une époque d'abaissement de la foi, donc pas maintenant, et qui, et en qui se résumeront toutes les persécutions passées, présentes, futures, contre notre sainte religion et son divin fondateur. Saint Jean écrit dans sa première épître, chapitre 2, verset 18. Mes petits enfants, vous avez entendu dire que l'Antéchrist vient. Sachez qu'il y a dès à présent plusieurs Antéchrists. Tout esprit, en effet, qui nie Jésus-Christ est déjà cet Antéchrist dont on vous a prédit la venue. Je peux vous assurer que je suis content de vous donner tous ces extraits de la Sainte Écriture parce que la personne en Antéchrist, elle n'a pas arrêté d'être annoncée. C'est pas une idée. C'est pas une. Et alors, là, en l'occurrence, justement, il y aura un seul Antéchrist. Tous ceux qui ont été comme Staline, Mao, tout ça n'étaient pas l'Antéchrist. Néron, tout ça. Et certains disent, c'est des Antéchrists. Non, à un moment donné, il y en aura un, et ce sera le bon. Oui. Ces paroles indiquent clairement que s'il est présentement plusieurs Antéchrists, c'est-à-dire plusieurs antagonistes de Jésus-Christ, il est cependant un Antéchrist proprement dit qui doit venir et dont les autres ne portent le nom que par similitude. L'Antéchrist ne peut donc être pris pour un personnage légendaire, pour une fiction, un mythe, comme M. Renan s'est efforcé de l'établir. Pas plus qu'il ne peut être confondu avec une secte antichrétienne, une période de défection religieuse, une école d'athéisme. L'Antéchrist sera une réalité vivante, un être parfaitement subsistant, ayant dit le prophète Daniel, chapitre 7, versets 8 à 20, deux yeux d'homme et une bouche qui parlera insolemment contre le Très-Haut. Saint Jean, nous décrivant dans son Apocalypse le supplice qu'il attend à la venue de Jésus-Christ, nous le montre. Jeté dans l'étang de soufre et de feu pour être tourmenté dans les siècles des siècles. Ce qui encore ne peut évidemment s'entendre d'une doctrine mais d'un individu. Apocalypse chapitre 20, verset 9. Saint Paul, enfant, nous l'avons vu, l'appelle l'homme de péché, le fils de perdition, cet impie que le Seigneur Jésus tuera d'un souffle de sa bouche et qu'il exterminera par l'éclat de son avènement. Et Saint Bellarmin écrivait « Autant de traits de caractère qu'il est impossible d'appliquer à un être idéal et abstrait et qui ne peuvent convenir qu'à un être de chair et d'os, à un personnage déterminé. » Le grand commentateur des Saintes Écritures, Cornelius à Lapide, va plus loin et il donne cette vérité comme de foi. Il est certain et de foi que l'Antéchrist sera un homme unique, un personnage particulier, tel est le sentiment de l'Église et des Pères. La plupart en effet des docteurs et des pères cités par Sander et Bellarmin, et dont la nomenclature serait trop longue, affirment expressément que cet illustre scélérat, ce colosse d'impiété et de dépravation, sera un sujet humain, la vivante antithèse du Christ, un messie satanique. Le Christ paru dans l'humilité, l'Antéchrist viendra plus plein de superbe. Il aura, dit saint Thomas, ses faux apôtres, ses faux miracles, sera l'inspirateur de toutes les convoitises de la chair, de tous les égarements de l'esprit. En lui se condenseront tous les plus noirs projets de Satan, au point que tous les génies d'erreur et tous les artisans d'iniquité qui se sont succédés aux différents âges n'apparaîtront auprès de cet homme que comme des pygmées auprès d'un géant. Comme le Christ, dès lors, puisqu'il est sa copie à rebours, ne peut-on admettre qu'il sera figuré. Les dominations suivantes tirées des divines écritures, principalement d'Isaïe et des psaumes, sembleraient très bien, par exemple, s'appliquer littéralement à ce monstre. Léviathan, serpent tortueux, Bélial, esprit impur, Belzébuth, dieu d'Acharon, Moloch, idole aux hécatombes d'enfants, homme de sang, père du mensonge, calomniateur, sanglier de la forêt. Bon. Comme le Christ, il aura ses précurseurs, ses esquisses prophétiques dans plusieurs souverains tyranniques, dans certains types antichrétiens, pour n'en citer que quelques-uns, Jéroboam, Achab, Balthazar, Héliodore, Antiochus Épiphane, qui étaient des rois de l'Ancien dans l'Ancien Testament, et Néron, Julien l'Apostat, qui était un empereur qui avait été baptisé, s'est retourné contre les chrétiens, Arius, qui attaque la divinité du Verbe, Mahomet, hein, parce que lui, il nie la divinité de Jésus. Donc les musulmans doivent se détacher de Mahomet. Oui. Et s'en faisant un sceptre pour commander au monde. Luther, qui rejette la messe. Voltaire, le père du rationalisme. Et la franc-maçonnerie. Oui. Quiconque nie Dieu et Jésus-Christ est par avance un antéchrist, dit Saint Jean. Voilà. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien, voilà ce que dit notre Seigneur. Je suis venu au nom de mon Père et vous n'avez pas cru en moi, un autre viendra en son nom et vous le recevrez. C'est clair, hein? Et voilà ce que dit Saint Jérôme, ce qui veut dire que les Juifs, ajoute le saint docteur, après avoir méprisé la vérité en la personne de Jésus-Christ, recevront le mensonge en recevant l'antéchrist, d'où ce que dit l'abbé Lehmann sur saint Jérôme et sur des pères de l'Église. Et moi je vous rajoute, parce que avec ce qu'on a vécu des persécutions des Juifs au XXe siècle, je peux vous assurer que ce ne sont pas les Juifs observants qui vont suivre l'antéchrist. Non, ça sera Jacques Attali, ça sera Alain Minc, mais ça sera pas des Juifs observants. Ils vont dire, parce que les Juifs observants, ils tuent pas leurs enfants trisomiques. Tandis que ça sera vraiment, il y aura un eugénisme extrêmement dur dans les hôpitaux, dans le gouvernement mondial. Hein. À ça, je vous assure qu'il y aura plus un seul trisomique, plus un seul nain. Toutes les maladies génétiques seront répertoriées et on exécutera tous les enfants. C'est pire qu'une naissance. Ah ben ça sera, et puis ça sera au nom de l'amour, hein. Ça sera, voilà. Et donc ça c'est vraiment très important. Jérémie. Alors, il y a des commentateurs qui vont dire: il sera peut-être de la tribu de Dan. Alors comment savoir que l'antéchrist est d'une des 12 tribus d'Israël, puisque aucun juif actuellement ne sait de quelle tribu il est? Ah non, 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 vous avez les Cain, les Cohen et les Can qui sont de la tribu de Lévi. Montrez-moi les papiers. Pas de papiers, pas de descendance. Eh oui, c'est très important ça. Et j'ai rencontré donc dans un repas de Madame Burki, qui est la maire du 9e arrondissement. Et donc, il y avait le président de la synagogue de la Victoire qui me dit: ah, les juifs libéraux, c'est ceux qui considèrent que quand vous êtes convertis et prosélytes, vos enfants sont juifs aussi. Donc ça veut dire que quand vous vous convertissez au judaïsme, il faut que vos enfants fassent aussi profession de judaïsme quand ils seront conscients et adultes, enfin, ou enfants, pour être considérés comme juifs. Un peu dur, hein. Et ensuite, mais c'est le principe qu'on est juif que par sa mère, hein. Et il considère aussi comme juifs comme que des Cahen puissent se marier avec des juifs convertis. Les Cahen, les Cohen et les Cahn ne peuvent se marier qu'avec des juifs de mère, parce qu'ils doivent préserver leur judaïté. Il a dit ça, hein, le monsieur. Hein? Je lui ai dit, mais monsieur, vous êtes raciste. J'ai pas osé. Allez, j'ai pas osé. C'est l'interprétation que Cornelius à Lépidée donne de cette parole de Jacob. Dans la Genèse, chapitre 49, verset 17. Que Dan devienne comme un serpent dans le chemin, comme un céraste dans le sentier qui mord le pied du cheval pour faire tomber son cavalier à la renverse. J'attendrai le Seigneur, le Sauveur, qui doit venir. L'Antéchrist aura les mœurs du serpent et les dents empoisonnées du céraste, car par ses fourberies, son hypocrisie, sa malice, il s'emparera des âmes, s'insinuera dans les consciences, puis les enlacera, les mordra, les fera trébucher et périr. Ainsi, elle a vu anticiper de cette persécution toute de ruse et de cruauté, universellement déchaînée par un de ses descendants, le patriarche mourant, saisi de douleur, transi de terreur, jette-t-il vers le ciel cette exclamation prophétique. J'attendrai, Seigneur, le Sauveur que vous enverrez. C'est-à-dire, j'espère, Seigneur, que vous enverrez alors votre Fils une seconde fois pour délivrer le monde. Pourquoi Jacob, Israël, avait un sens prophétique pareil? Je peux vous assurer que dans la Genèse, quand Jacob dit à Judas, son fils Judas, qu'il aura le pouvoir sur ses frères et que le sceptre sortira de sa tribu le jour où viendra le Messie, c'est une prophétie qui est faite à la troisième génération après Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, à la confirmation des apparitions d'Abraham et d'Isaac, et à un moment, l'ange qui vient lui confirmer la mission de son père, Abraham, et de son peuple, Jacob le retient et dit, donne-moi ta bénédiction, et là, l'ange, non, non, non. Alors, Jacob se jette sur son corps d'emprunt, et là, l'ange, au lieu de disparaître, il se laisse faire. Mais non. Et mais c'est très important, hein, le combat entre Jacob et l'ange, il est représenté de très nombreuses fois. C'est l'humanité qui désire la grâce de Dieu, et qui insiste, et qui est persévérante, c'est très beau, hein. Et là, l'ange, il est là, il dit, et là, il fait du judo avec lui, sans doute. Et à un moment donné, karaté, c'est-à-dire qu'il lui coupe le nerf sciatique. Hein, il chou. Et là, Jacob tombe par terre, et il boitera tout le reste de sa vie. Et là, l'ange lui dit, tu es persévérant, tu as de l'énergie. Hein, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, hein, fort face à Dieu. Et Dieu te confirme toutes les promesses, ta descendance sera comme les sables de la mer, le sable de la mer, comme les étoiles dans le ciel. Vous voyez, nous sommes toute cette descendance d'Abraham. Oui. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, qui était de la tribu de Lévi, et qui était même de la famille d'Aaron, qui était un prêtre, qui n'a pas exercé parce qu'il est parti dans le désert, mais son père, Zacharie, était prêtre, il voit les pharisiens arriver, tout ça, les sadducéens, race de vipères. Hein, vous avez peur de la colère qui vient. Vous voulez vous convertir. Et les prostituées, les soldats, tout ça. Venez. Dieu vous bénit, vous pardonne. Arrêtez. Ne tuez plus. Enfin, ne tuez plus. Ne faites pas des razzias, tout ça. Enfin, il leur dit comment se convertir. Hein. Il leur dit pas, Dieu vous pardonne et continuez à pécher. Voilà. Non. C'est pas l'amour conditionnel de Dieu ou inconditionnel de Dieu. Non, non, non. Il leur demande de se convertir. Mais en ce qui concerne les pharisiens qui, eux, sont observants et hypocrites, race de vipères, qui vous a appris à éviter la colère qui vient? De ces pierres, Dieu peut faire des enfants à Abraham. Alors arrêtez de vous la jouer parce que vous êtes descendant d'Abraham. Vous voyez ? C'est une drôle de parole de Jean-Baptiste. C'est Pierre. Dieu peut faire des enfants à Abraham. Donc, la mission des Juifs, c'était de garder la foi et de la transmettre. Et donc, Jacob voit David et voit que le sauveur sera de la tribu de Juda et que lorsque le descendant royal de Juda perdra le sceptre, viendra le Messie. Et Hérode est Iduméen et roi d'Israël. Et c'est la famille royale de David perd le sceptre quand Hérode arrive. Franchement, c'est la prophétie de la Genèse. Les exégètes sont vent debout contre eux. Comment Jacob, 1700 ans avant, a pu dire ça? C'est comme le prophète Daniel aussi. Vous avez Gabriel qui lui apparaît et qui lui dit dans 70 semaines d'années, le Sauveur arrivera. Arrête de prier, on ne peut plus s'entendre. Et là, Daniel dit, mais merveilleux, j'ai une annonce du Sauveur. Gabriel s'en va, et lui il est là, il prend un stylet, il n'y avait pas de stylo, une plaque de cire, je suppose, ou alors un stylet pour graver dans la pierre, 70 semaines d'années. Alors, un an fois 7 fois 70. Voyez, 500 ans dans la vue, là. Pouf. Patience. Voyez. Et là, Daniel attendra. Malveda, dominicain espagnol, et professeur dans son ordre de philosophie et de théologie, appuie encore ce sentiment dans le texte suivant de Jérémie, chapitre 8, verset 16. Le bruit de la cavalerie ennemie s'entend déjà de Dan. Toute la terre retentit des hennissements de leurs chevaux de bataille. Ils viendront en foule et dévoreront tous les pays, détruiront toutes les villes et tous leurs habitants.